prier ce matin qu'on, puisqu'on est dans la période justement où on va prendre la table du Seigneur ce matin, mais qu'on fasse une continuité avec le message. Parce que le message où on est rendu dans Jacques, je trouve, se poursuit bien avec la table du Seigneur. Et c'est pour ça que je suis en bas ici ce matin. Je vous invite à tourner dans Jacques chapitre 2. Dieu, il veut une relation avec toi. Dieu, il veut une relation avec moi aussi. C'est surprenant, hein? Mais Dieu, il nous aime. Et si on a placé notre foi en Jésus-Christ, si j'ai dit « Oui, Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés. Dieu t'a ressuscité. Je place ma foi en toi. C'était pour mes péchés que tu es mort. Et je me repens aussi. Ma vie est caractérisée par cette marche-là que Jésus veut que j'aie en tant que disciple. Je suis un enfant de Dieu. » Pour Jacques, il n'y a aucun doute qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu la parole, qui a transformé sa vie. Hein, on l'a lu la dernière fois, si vous étiez là dimanche dernier. Jacques, il dit au verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Alors, dans ce verset-là, ce n'est pas écrit que Dieu nous a engendrés selon nos bonnes œuvres et selon notre propre justice. Il l'a fait selon sa volonté, par sa parole, par l'Évangile qui peut transformer nos vies. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. J'ai une relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça change dans ma vie avec lui? J'ai écrit dans le titre, si vous avez lu sur le bulletin, « Es-tu spirituel? » Donnez-moi pas la réponse. Ne levez pas la main si vous l'êtes, là, ou si vous pensez ne pas l'être. C'est un peu tannant de penser à cette question-là, hein, parce qu'on se dit, « Mais ça se mesure comment, ça? » Il me semble que juste la question en soi nous rend un peu mal à l'aise parce que, ben, c'est quoi être spirituel? Ça se mesure comment? Et là, est-ce que ça se mesure à la grosseur de la Bible que vous avez ce matin? Hein? Avez-vous vu la mienne? Elle est rouge, grosse et imposante. Hein? On pourrait dire, ça se mesure peut-être tantôt, Camille, mais peut-être, ça se mesure pas à la grosseur de notre Bible. Hein? On pourrait avoir une très grosse Bible ou une petite Bible, mais comment ma vie est changée? Comment ma vie est transformée par ma relation avec Dieu? Ça se transforme comment? Ça transparaît comment? Est-ce que, parce que je viens le dimanche matin avec ma cravate, et là, je ne condamne pas votre grosseur de Bible. Hein? Repartez tranquille, là. Si vous avez une grosse Bible, c'est pas grave. Je ne veux pas vous repartir là, dans la condamnation. Là. Mais si on se dit, OK, ma spiritualité va se mesurer dans ce cas-là à mon habillement. Hein? Là, je vais mettre une cravate, je vais mettre une robe, je vais mettre les plus beaux vêtements pour vous témoigner de ma spiritualité. Mais est-ce que vraiment c'est ça qui change ma vie dans ma relation avec Dieu? Ma vie est transformée par Dieu. Est-ce que c'est ça qui vient changer ma vie? Est-ce que c'est à la barbe bien coupée? Est-ce que c'est à la grosseur de notre Bible? Est-ce que c'est à la cravate, à la robe? Comment ça se mesure? Le kit parfait du chrétien, ça ressemble à quoi? J'ai apporté ici deux paniers de fruits. On commence par un premier panier de fruits. Ils sont beaux, hein? C'est pas les miens. Mais il y a un petit problème avec ces fruits-là. C'est quoi, à votre avis? Ils sont pas mangeables. Ils sont artificiels. Ah, t'es déçu, hein? Ils paraissent bien, par exemple. Hein? La pomme a de l'air rouge, elle a de l'air verte et rouge. Elle a des beaux raisins ici, rouges aussi. Une banane. Mais qu'est-ce que ça apporte dans ma maison, mis à part que ça a de l'air d'un panier de fruits? Si je pense nourrir mes enfants avec ça, ils vivront pas grassement. Parce que ça sert uniquement pour bien paraître. Pour Jacques, on va voir ce matin que c'est important de discerner le vrai du faux. C'est important de faire la part des choses de ma relation avec Dieu vient changer quoi concrètement avec Dieu dans ma vie sur terre. Ça se transporte comment dans ma vie? Et être capable de discerner le faux du vrai, de l'apparence et de ce qui est dans le cœur, dans ce qui est dans notre relation avec Dieu. Vous allez trouver Jacques 2, ce que je vais faire, on va prier. Que Dieu vienne toucher nos cœurs, que Dieu vienne mettre le doigt dans chacune de nos vies, qui que l'on soit, pour qu'il vienne nous transformer. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer, parce que ta parole, elle est vivante. Tu es un Dieu vivant. Et Seigneur, je peux dire ce matin que je suis sauvé parce que j'ai placé ma foi en toi, parce que je me suis repenti de mes péchés. Et tout cela à cause de ta volonté, je suis devenu ton enfant. Et je veux te montrer, Seigneur, toute ma reconnaissance à cet amour que tu m'as témoigné. On veut, Seigneur, par ta parole ce matin, disposer nos cœurs pour que tu viennes nous parler. Puisqu'on est maintenant des enfants de Dieu, si on a placé notre foi en toi, on veut comprendre, Seigneur, comment tu veux transformer nos vies concrètement. À quoi que tu veux que nos actions ressemblent. À travers l'épître de Jacques, Seigneur, viens toucher nos cœurs. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Jacques 2, on va lire le verset 26. On va voir deux versets ce matin. Il va y avoir d'autres versets greffés autour de ça, mais deux versets ce matin qui fait la suite de ce qu'on avait lu de Jacques. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. J'ai dit quoi? Ah, excusez-moi. Jacques 2. Jacques 2, verset 26. Ah, oui, hey boy, ça sort pas, hein? Il n'y a rien à faire. Vous allez m'exhorter avec ma grosse Bible, là, ça rentre tout. OK, Jacques 1, verset 26, je vais le relire, ça marche, parce que c'est important qu'on regarde les mots. 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Elle est vide. Elle sert à rien. La religion artificielle, elle n'a pas de sens. Elle ne donne pas de sens à notre vie. Elle ne donne pas de sens à ma relation avec Dieu. Et elle est, par le fait même, pas pour nous. Elle n'est pas pour moi. Et elle n'est pas pour toi. La religion artificielle, le panier de fruits, il va être dans ta maison seulement pour apporter une apparence, mais il n'apportera rien de concret. Ma relation avec Dieu doit avoir du sens. Et la religion en apparence ne donne pas de sens à ma vie. Regardez le verset, le premier mot que Jacques dit, si quelqu'un croit être religieux, ça se peut-tu qu'une personne se croit religieuse? Ben oui, ça se peut. Mais le problème avec ça, c'est qu'on se trompe soi-même. On peut tromper les gens. Hein? Si vous venez dans ma maison, vous voyez mon panier de fruits. En fait, ce n'est pas mon panier. C'est à un frère. Et quand je suis allé chez ce frère-là, le premier regard que j'ai eu sur le panier de fruits, ça semblait un vrai panier de fruits. Là. Je me demandais si je ne pouvais pas prendre une pomme. On croit et ça donne l'apparence de, et même tout le monde est trompé. Ça donne vraiment une apparence que, wow, une relation qui a transformé, qui a donné du sens à sa vie. Et Jacques, il dit, ça se peut que tu crois être religieux. Mais si quelqu'un croit être religieux, mais sans tenir sa langue en bride, il y a un problème. À quoi ça sert? Je pose la question, à quoi ça sert de dire qu'on est religieux si Dieu n'a pas le même verdict sur nous? À quoi ça sert de témoigner d'une chose de nous-mêmes s'il n'y a personne qui témoigne cette même chose-là envers nous aussi? Alors, à quoi ça me sert que de dire « je suis religieux » si Dieu ne voit pas ma vie comme une vie qui le glorifie et qui l'honore? C'est du temps perdu. C'est de l'énergie perdue. C'est une apparence perdue parce qu'elle ne donne pas de sens à ma vie. Parce que ultimement, celui à qui je dois rendre des comptes, c'est à Dieu. Et je ne peux pas tromper Dieu. On peut se tromper soi-même. On peut même se tromper nous-mêmes, notre propre personne, de dire « Hey boy, je dois avoir une vie rangée avec tout ce que je fais. » C'était le cas des pharisiens, hein? Des scribes. Eux autres, ils croyaient avoir une vie très rangée. Et Jésus avait un verdict différent. Regardez, tournez rapidement, gardez un doigt dans Jacques. Tournez rapidement dans Matthieu 23. Les scribes et les pharisiens, ils se croyaient religieux. Il y avait tellement de rites qu'il n'y a pas personne qui arrivait à leur cheville. dans l'apparence religieuse. Et c'était des fruits artificiels, là, hyper réalistes. Mais sans vie. Parce que, regardez le verdict que Jésus donne sur leur façon de vivre, sur leur foi, sur la foi authentique versus la manifestation d'une apparence. Je vais juste vous lire le début de quelques versets. Vous me direz ce que Jésus pense des pharisiens et des scribes. 23, verset 13, dans Matthieu. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » Regardez verset 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » Verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » Verset 16. « Malheur à vous, conducteurs aveugles! » Verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » Verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » Avez-vous l'impression que je répète les mêmes choses? C'est les paroles de Jésus, là. C'est pas moi qui les répète. C'est Jésus qui dit ça. Regardez verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » Verset 29. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » C'est quoi le verdict de Jésus sur les scribes et les pharisiens? Hypocrites! J'espère que vous aviez la bonne réponse. Hein? Une belle apparence. C'est beau. Les gens, ils sont trompés. Les scribes et les pharisiens sont eux-mêmes trompés par leur propre apparence. Puis Jésus, qui est Dieu, fait chair, le verdict qu'il donne sur cette apparence-là, hypocrisie. Jacques, qui est le frère de Jésus, a des enseignements très similaires à ce que Jésus peut avoir comme enseignement radical. Revenez dans Jacques 1. Croire être religieux, ça ne donne pas grand-chose devant Dieu. Et pour Jacques, il dit, si on est des enfants de Dieu, puis qu'on ne tient pas notre langue en bride, ça ne marche pas. Il y a un problème. Dans les Écritures, notre marche avec Dieu est intimement liée avec notre langue. C'est incroyable, hein? Mais c'est ça le verdict que Dieu nous donne. Tenir sa langue en bride. Avec notre langue, on peut médire. On peut calomnier, on peut mentir, on peut ordonner des choses qui, évidemment, ne glorifient pas Dieu. Notre langue est en quelque sorte la porte de notre cœur. Parce que Jésus avait ce verdict-là. Hein? Vous vous souvenez, Matthieu 15, cité dans d'autres évangiles aussi, c'est de votre cœur que sortent les mauvaises choses. Et ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui souille l'homme. C'est ce qui sort du cœur et qui passe par la bouche qui souille l'homme. Et pour Jacques, ce qui sort de notre bouche, c'est juste la manifestation de ce qu'il y a profondément dans notre cœur, finalement, de notre marche avec lui. Tournez juste quelques pages plus loin dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Pierre, il fait une citation du psaume 34, 13 à 17. Et regardez ce que Dieu a comme verdict en ce qui concerne la langue. On pourrait parler longuement. On va conclure en ce qui concerne la langue avec ce verset-là. Mais regardez 1 Pierre 3, 10. « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il fasse quoi? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. » Qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les paroles et les actions. Pierre est en train de citer un psaume et Jacques a le même verdict. Et Dieu a ce verdict-là, que notre bouche, qu'elle soit tenue en bride, que finalement, que notre marche avec Dieu, si je dis que j'ai une foi authentique, mais finalement, c'est qu'une apparence parce que ma bouche témoigne bien le contraire de ce que j'ai dans le cœur, mais il y a un problème. Verset 26 de Jacques 1, il dit, « Sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, il donne une apparence de par sa bouche où il dit des choses sans tenir sa langue en bride, et puis son cœur est une autre chose. La religion de cet homme est vaine. Si je prenais un couteau et je décide de couper cette pomme-là, Je le ferai pas parce que c'est pas à moi. Mais il va probablement juste avoir du styrofoam. Quelque chose de vide. Je sais pas si les raisins sont vides. Il y a rien dedans. Il y a rien. Il y a rien d'utile. La religion, la foi authentique, Jacques emploie le mot religion, et il faut bien l'attacher à la foi authentique. À ce qu'on vient de lire dans les versets précédents. La foi, la parole qui a transformé nos vies. Mais si je dis avoir une foi authentique, mais que finalement je ne tiens pas ma langue en bride et que ma vie est tout croche, mais j'ai une belle apparence, ben c'est un fruit artificiel qui n'a rien dedans, qui ne va rien nous apporter, qui ne va rien nous donner. Jacques était un... j'ai dit Jacques. Tournez dans Philippiens 3. On va lire les versets 5 à 9. Les pharisiens, à un moment donné, avaient envoyé une mini-délégation pour essayer de prendre Jésus au piège pour voir s'ils pouvaient le prendre en défaut. Et puis, avant de manger, les pharisiens, les gens religieux, avaient plein de rites. Hein, on a dans le Talmud plein de rites découlant de la Torah, c'est-à-dire la loi de Dieu, et après ça, les rites religieux qui découlent de la loi, que les scribes, les pharisiens connaissaient bien, probablement plus le Talmud que la Torah, qui était la loi. Et eux autres, les pharisiens, les gens qui étaient là, ils essaient de prendre Jésus au piège, réalisent que Jésus, il ne se lave pas les mains avant de manger. Puis pas juste parce qu'il a peur de pogner la grippe, là, parce que c'était les rites religieux du temps. On se lave les mains d'une façon, on lave les bols, on lave les coupes, et ça, c'était les rites. Et là, on l'a pogné. Jésus, il vient de pécher, il n'a pas suivi ça. Alors, Jésus a une discussion avec eux, ce que je citais tantôt sur ce qui sort du cœur. Et Jésus, ce qu'il leur reproche, c'est que vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Il est là le problème. L'apparence de... ce qui est religieux, qui est des traditions, qui est des rites, qui sacrifient le commandement de Dieu. Et là, ils s'étaient trouvé toutes sortes de formules pour ne pas honorer leur père et leur mère, qui, par exemple, étaient dans le besoin financier. « Ah, mais est-ce que j'aurais pu te donner? C'est une offrande corban. Et puis, finalement, j'ai pensé le donner à Dieu. Je ne peux pas t'aider. » Puis, cette offrande-là finissait que par leur revenir. C'était très hypocrite. Jésus le condamne en disant, « Vous annulez le commandement de Dieu, honore ton père et ta mère. » au profit de votre tradition. Il est là le problème. Et Paul était un de ces gens-là qui pouvait avoir une belle apparence religieuse et qui, à un moment donné, a rencontré le Seigneur et qui a transformé sa vie. Pas sa vie. Oui, sa vie extérieure a été transformée, mais son cœur a été transformé. Et avant que son cœur soit transformé, regardez bien comment est-ce que Paul y vivait. Philippiens 3, à partir du verset 5. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Paul, il dit, toutes ces choses-là, que j'avais dans le passé, j'étais un pharisien, circoncis le huitième jour, pharisien, hébreu, né d'hébreu, irréprochable quant à la loi, la justice de la loi. Et toute cette vie religieuse-là, je la regarde aujourd'hui comme de la boue. Ce qui était pour moi un gain, et maintenant, je les regarde comme la boue, et maintenant, une autre chose, parce que je ne veux pas obtenir ma justice, mais je vais avoir celle de Dieu. Tantôt, on parlait... Est-ce que je peux me croire religieux? Ben oui, Paul se croyait religieux pendant très longtemps. À un moment donné, il a compris que c'était face aux yeux de Dieu qu'il devait être évalué, pas aux yeux des hommes. Et ce qu'il dit finalement, c'est la justice de Dieu que je vais avoir par la foi, pas ma justice par la loi que je vais obtenir à travers mes bonnes œuvres. J'ai apporté un deuxième panier de fruits. Vous pouvez revenir dans Jacques. Et là, vous imaginez bien quel fruit j'ai amené. Des vrais fruits. Oups, je vais tasser ma grosse Bible d'être là. Tu voudras manger? Il n'y a pas de problème, il en reste ici. C'est quoi la différence? Elle est évidente, hein? Ils sont beaux. Ils sont... Hein? Et ils peuvent sentir bon. Peut-être que vous ne les sentez pas de là, mais ils ont quelque chose qui sont différents des fruits artificiels. Les fruits artificiels, ils ne sentaient rien. Ils paraissaient bien, mais ils ne donnaient rien de concret. Comparativement aux fruits que j'ai maintenant, ils ont quelque chose à l'intérieur. Ils ont quelque chose de vrai. Quelque chose qui goûte. Quelque chose qui sent. Quelque chose qui nourrit. Quelque chose de vivant. Ça, c'est le type de foi authentique que Dieu veut voir chez ses enfants. Que Dieu veut voir chez les hommes. Dieu veut voir qu'on a une relation avec lui qui sent bon. Une relation avec lui qui est bonne. Une relation avec lui qui goûte quelque chose et qui est agréable, autant pour lui que pour nous. La religion pure et sans tache, elle a du sens. Et elle est faite pour toi. Elle est faite pour moi. Tantôt, je posais la question, êtes-vous spirituel? Répondez pas à cette question-là, mis à part que de placer votre relation avec Dieu. Et puis, posez-lui la question où vous en êtes dans votre marche avec lui. À quoi ressemble votre vie avec lui? Tantôt, je parlais d'apparence. Et sans condamner des choses que j'ai parlé aux apparences, parce que finalement, les vrais fruits ont aussi une apparence. Mais s'ils ont cette apparence-là, c'est à cause de la vie qu'ils ont à l'intérieur. Et ce n'est pas juste une apparence. Regardez, on va lire le verset 27 de Jacques. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion, l'expression d'une foi authentique se vit par la visite de l'orphelin, de la veuve dans leurs afflictions. Pourquoi? Ces gens-là étaient ceux qui étaient dépourvus, par exemple, de parents ou de mari à cette époque-là, constituaient une frange particulièrement nécessiteuse de la communauté. Et pour Dieu, que de prendre soin de son prochain, de prendre soin de cette portion-là du peuple qui pouvait être là, c'était aussi une manifestation d'une foi authentique, sans attendre quelque chose de retour. Parce que je peux prendre soin, je peux donner, en l'espérance de recevoir quelque chose. Et je vais donner à quelqu'un dans l'espoir de recevoir quelque chose. Mais quand que je donne à la veuve, à l'orphelin, et on pourrait traduire ça dans notre société aujourd'hui, aux gens qui sont moins bien nantis, qui ont des difficultés, et qu'on va prendre soin puis qu'on va aller vers eux, on va en prendre soin parce que c'est la marque du disciple. C'est la marque que le maître veut laisser chez ses disciples. Avez-vous déjà lu sur la boîte de Pogo? Si ce n'est pas écrit Pogo sur le bâton, ce n'est pas un Pogo. C'est banal, hein, comme expression. Sauf que un disciple qui n'a pas la marque de l'amour, ben Jacques, il remet ça en question. De visiter son prochain, de prendre soin de son prochain, c'est l'exemple que Jésus nous a donné. C'est l'exemple authentique de la foi que le maître veut transmettre chez ses enfants, de prendre soin. Tournez dans Matthieu 25. Tantôt, je disais que Jacques a un type d'enseignement très similaire à Jésus. Vous allez voir à quoi je fais référence aussi. Matthieu 25, à partir du verset 34. Jésus, un jour, va revenir et ce sera le jugement des nations. Je ne veux pas faire un exposé eschatologique sur la fin du monde, mais regardez bien le verdict que Jésus donne sur les deux groupes qu'il sépare. À partir du verset 34, Matthieu 25. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » C'est quoi l'expression authentique de la foi de ces gens-là? Ces gens-là qui avaient la foi, qui avaient placé leur foi en Jésus, avaient l'expression d'amour que Jésus a aussi pour le monde. Vous avez vu quelqu'un avoir soif, vous êtes allé vers lui, vous lui avez donné à boire. Vous avez vu quelqu'un de malade, vous êtes allé en prendre soin. Vous avez vu quelqu'un qui n'avait pas de vêtements, vous êtes allé lui donner vos vêtements. C'était concret, c'était vivant, c'était l'expression d'une foi authentique. Comparativement à l'autre groupe, sans le lire, qui est exactement le contraire. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais froid, vous ne m'avez pas donné de vêtements. On peut avoir cette apparence-là sans voir les actions. Puis pour Jésus, mais l'expression de notre foi authentique se transmet par prendre soin de son prochain. À un moment donné, Jésus s'était fait poser la question, « Oui, mais mon prochain, c'est qui? » Souvenez-vous de l'histoire? C'est qui mon prochain, Jésus? Tu dis prendre soin de mon prochain. C'est qui mon prochain? Et là, Jésus raconte une histoire. C'est un homme qui se fait battre, qui se fait prendre tous ses biens et puis qui est laissé pour mort dans le chemin, en plein milieu du chemin. Et là, Jésus va citer des gens qui sont par tradition des gens religieux. Un Lévite passe. Premièrement, un sacrificateur de mémoire. Un sacrificateur passe, le voit, puis qu'est-ce qu'il fait? Continue son chemin. Il ne fait pas un cas de ça, pas le temps. Les sacrifices à aller faire, c'est un sacrificateur. Il y a un Lévite qui passe, un Lévite. C'était de la même trempe que les sacrificateurs, mais c'était quelqu'un qui était dans la société religieuse. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il lévite. Hein? Il passe par-dessus, il l'enjambe et puis il continue son chemin. Mais comment ça se fait que cette personne-là, qui est supposée avoir une relation avec Dieu, regarde cette personne-là qui est laissée pour mort, un de ses frères juifs qui est là, il continue son chemin. Il ne fait pas un cas de sa vie avec ça. Et là, il y a un homme qui passe, qui lui s'est toujours fait persécuter par les Juifs. Sa nation a toujours été méprisée par les Juifs, toujours négligée. Cet homme-là, c'est un Samaritain. Et puis, il voit le Juif qui est par terre, qui a été battu pour mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Il prend soin. Il panse ses blessures. Il met sur son âne. Il l'emmène à l'hôtel. Il paye ce qui est nécessaire pour qu'on en prenne soin. Et puis, il s'assure que le cheminement de sa guérison va bien. Puis là, Jésus, il pose la question, il retourne la question, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Et il s'est fait répondre, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Répondit le docteur de la loi. C'est un docteur de la loi qui pose cette question-là à Jésus. Et il avait bien répondu. Le prochain, c'était cet homme-là qui l'avait persécuté. Le Samaritain avait été persécuté, son peuple était persécuté, était négligé, méprisé, et il a pris soin quand même. Il a usé de miséricorde. Ça, c'est l'enseignement que Jésus transmet à ses enfants. Ça, c'est la religion pure et sans tache, l'expression d'une foi authentique. C'est des vrais fruits. Quelque chose de vrai, quelque chose qui coûte de quoi, quelque chose qui demande qu'on s'arrête, qu'on prenne soin, qu'on donne, sans avoir dans l'espérance de retour de quoi que ce soit. C'est ce que Jésus a enseigné. Et je veux juste retenir la dernière phrase que Jésus a dit à ce docteur-là et qu'on va se l'approprier. Jésus lui dit, Va et toi, fais de même. C'est l'enseignement que Jésus nous donne. Toi, là, fais de même. Prends soin de ton prochain. C'est l'expression d'une foi authentique. Fais revenir dans Jacques. L'amour issu de notre foi en Jésus-Christ va nous amener à la manifester, pas juste par notre bouche. Jean, il disait aimer en action et en vérité. Je vois quelqu'un, je viens à l'église, je vois quelqu'un qui, ce que Jean est en train de citer dans Jean 3, verset 18, tu vois quelqu'un qui est nécessiteux, quelqu'un qui a besoin, il a pas de manteau, il a besoin de quoi que ce soit, et toi tu possèdes les biens de ce monde, et tu lui dis à la porte, « Hey, que Dieu te bénisse, va et réchauffe-toi. » Mais tu fais rien pour lui. Mais Jean, il dit, « Il y a un problème. » Je vous encourage à ne pas aimer juste en parole, mais en action et en vérité. Ça, c'est l'expression d'amour que Dieu, que notre Seigneur veut que l'on ait en tant qu'enfant de Dieu. Une expression d'une foi authentique. Regardez, on va finir le verset 27. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. » J'insiste encore sur cette expression-là. « Devant Dieu notre Père. » Pas devant les hommes, pas devant qui que ce soit. L'expression d'une foi authentique devant Dieu, qui est notre Père, consiste à visiter les veuves, les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est l'expression authentique de notre foi aussi. Se préserver. On est dans une société où on cherche à préserver toutes sortes de choses. Hein? On entend des mouvements. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je fais juste les relever, OK? On dit, oh, on veut préserver telle forêt, ou on veut sauver telle rivière, ou on veut préserver nos fruits d'OGM, on veut préserver notre santé en utilisant différents produits. On est dans une société où on veut garder, où on réalise que si on est dans une surconsommation et qu'on ne prend pas soin de notre entourage, la pollution finit que par nous environner de toutes parts. Et il y a toutes sortes de conséquences à ne pas préserver cette pureté-là. Hein? Si on ne prend pas soin de nos rivières, par exemple, et puis toutes les centrales nucléaires envoient leurs produits dans les rivières, bien, à un moment donné, on est fait. On va boire de l'eau polluée. Alors, le thème est là, de préserver, de conserver, de garder. On a des autos de plus en plus sécuritaires. Hein? Je ne sais pas si vous remarquez. De plus en plus, là, on pourrait faire un face-à-face à 200 km/h, puis on ne bougerait même pas quasiment. Et on est tellement rendu, j'exagère, là, essayez-le pas, mais on est tellement rendu qu'on veut préserver que, mais évidemment, c'est une bonne chose, on veut préserver notre santé, notre sécurité dans l'habitacle de notre voiture. Parce qu'on réalise bien qu'il y a des dangers extérieurs. On va être bientôt confronté aux rigueurs de l'hiver. Vous allez continuer de sortir, j'imagine, hein? Vous allez continuer de sortir de vos maisons. Vous allez continuer d'aller au travail. Vous allez continuer d'aller au dépanneur. Vous allez continuer d'aller porter les poubelles au bord du chemin, même s'il y a de la neige. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez sortir? Vous allez vous préserver du froid. Vous allez vous protéger du froid. Ça m'arrive des fois d'aller porter les poubelles au bord du chemin pieds nus, mais c'est pas très intelligent quand il y a de la neige. C'est pas très intelligent, je me préserve pas d'un coup de froid. Mais pour le croyant, c'est la même chose. Une foi authentique, on veut la préserver. Ma marche avec Dieu, je veux la préserver. Une foi authentique, c'est pas seulement que de dire je lutte contre le péché, puis je lutte contre des difficultés dans ma vie. C'est que je m'y préserve aussi. Je fais attention où je me mets les pieds. Je fais attention où je place mes regards. Je fais attention des choix que je fais avec mes mains. Ma vie ressemble à quoi? Comment je me préserve? On va continuer de vivre dans le monde. On va continuer d'aller au travail, comme je disais tantôt. On va continuer de côtoyer des collègues de travail, un employeur, des employés. On va continuer de côtoyer plein de gens. Mais quelle résolution avez-vous pris pour préserver votre marche avec Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez résolues de ne pas faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà discernées à l'avance de dire « c'est un chemin glissant »? Sans dire que le chemin, des fois, là, on, On pourrait imaginer un chemin très plat, puis de l'autre côté, un grand ravin. Mais il y a des chemins, des fois, qui nous mènent, qui nous font glisser. Est-ce qu'on a eu ce discernement-là pour le voir? Préserver nos vies. On vit encore dans le monde. On vit encore avec du monde. Et Dieu ne nous a pas appelés à vivre en réclusion et à plus jamais être dans le monde, mais à se préserver des souillures du monde, par exemple. C'est ça que Jacques vient de nous dire. Une foi authentique, la religion pure et sans tache devant Dieu, consiste à avoir la marque du maître dans le cœur du disciple, qu'il aime son prochain et que c'est fait en action, en vérité, et à se préserver des souillures du monde. À quoi ressemble ta marche? Le dimanche, c'est bien si vous venez avec votre cravate, avec votre robe, avec votre Bible, etc. Mais le lundi, ça ressemble à quoi? Quand que vous finissez votre semaine le vendredi soir, votre vie ressemble à quoi? Le samedi ou pendant vos vacances, est-ce que vous êtes encore ce chrétien authentique? Qui a une foi authentique, pure et sans tache devant Dieu? À quoi ressemble votre marche avec Dieu? Et ça ne sert à rien de tromper les hommes. Ça ne sert à rien de tromper nos prochains pour montrer qu'on pourrait avoir une marche conforme à ce que Dieu désire. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos vies. Dieu voit nos choix. Dieu voit nos actions. Tantôt, je citais de préserver. Je donnais l'exemple de préserver. Job, il disait, j'ai fait un pacte avec mes yeux. De jamais poser le regard sur une vierge, par exemple. Il avait fait un pacte avec ses yeux. Quelle attitude est-ce que tu prends dans ta vie, à tous les jours de ta vie, demain, vendredi prochain, samedi, pour que ta foi demeure authentique? Ça demeure un fruit qui est agréable devant Dieu, et pas en apparence, mais parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et si je coupe ce fruit-là, vous allez voir qu'il y a du jus qui va couler. Si j'ouvre une banane, vous allez voir qu'il y a vraiment une banane dedans. Ce n'est pas du styrofoam que vous allez étendre sur vos toasts. Ça va être des vraies bananes, des vrais raisins, quelque chose qui goûte, qui sent, qui est agréable. Notre marche avec Dieu devrait constamment être placée devant lui. Notre relation avec Dieu devrait constamment être réévaluée devant celui qui nous demande des comptes. Et ça va nous aider à marcher dans une foi authentique, dans l'expression d'une foi authentique. Et la table du Seigneur est une belle occasion pour ça, de se placer devant Dieu, de dire, Dieu, j'en suis où avec toi? Dans les prochaines minutes, c'est ça qu'on va faire. Que ce soit en quelque sorte l'évaluation de notre cœur devant Dieu. Dieu, tu me vois comment? Qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Et quand on prend la table du Seigneur, c'est l'occasion de prendre des engagements avec lui. Pas que s'il y a quelque chose à régler, qu'on laisse passer la table, qu'on laisse passer le pain ou la coupe, mais qu'en la prenant, qu'on prenne l'engagement de régler ces choses-là dans nos vies, de faire le point dans nos vies, faire du ménage dans nos vies. Je vais inviter l'équipe musicale à nous diriger dans un prochain chant. Juste pour disposer nos cœurs, que chacun d'entre nous, on ait l'occasion de se placer devant Dieu. Et suite au chant, je vais inviter immédiatement aussi les préposés à la table du Seigneur à s'avancer.